protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous. Si vous allez à la bibliothèque de l'IPT à Montpellier, alors IPT, Institut protestant de théologie, donc si vous allez à la bibliothèque, et je vous conseille d'y aller, même si vous n'êtes pas étudiant, vous verrez Sandrine que je reçois aujourd'hui au micro. Bonjour Sandrine.
Bonjour Yolande.
Alors, vous confirmez, on peut venir à la bibliothèque de l'IPT, même si on n'est pas étudiant, simplement pour voir des livres.
Alors oui, on peut venir bien sûr pour toutes sortes de raisons à la bibliothèque de l'IPT. Tout le monde est bienvenu, mais il faut quand même préciser que nous ne sommes pas une bibliothèque de lecture publique. C'est-à-dire que la personne qui viendra pour pouvoir consulter, voire emprunter, devra s'inscrire.
Oui, vous faites partie du réseau des bibliothèques universitaires de Montpellier.
Alors effectivement, nous sommes associés aux bibliothèques universitaires de Montpellier, plus particulièrement par une convention à Paul Valéry.
Et Paul Valéry qui est la fac de lettres sciences humaines de
c'est
Montpellier.
C'est ça. Mmh.
D'accord. Et alors on va s'intéresser à vous, Sandrine, puisque vous êtes là depuis pas très longtemps.
Ah, ça fait déjà un an et demi que je suis à ce poste.
Bon, le temps passe vite et effectivement, j'ai pas dû aller assez souvent à l'IPT. Bon, donc voilà. Vous êtes responsable de la bibliothèque de l'Institut protestant de théologie. Vous n'êtes pas protestante, je crois.
Non, je ne suis pas protestante et ça n'était pas une des conditions de mon recrutement.
Ah ben j'espère bien. Et
voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours vous êtes d'une famille pratiquante, catholique. Comment ça s'est passé pour vous si...
Du côté de ma famille, en fait, on est catholique de la branche paternelle et la branche maternelle également, mais catholique non pratiquant. Je suis à la fois d'origine italienne et espagnole, donc forcément c'était plutôt catholique. Et on s'en est tenu, aux traditions.
D'accord.
C'est-à-dire baptême, communion et pas plus que ça. Et on ne pratiquait pas. Mes parents ne parlaient jamais de religion, n'allaient eux-mêmes jamais à la messe. Mais comme beaucoup de familles, en fait, tenaient à ce que leurs enfants aient un parcours religieux. Donc, quand il a été l'heure, on nous a envoyés au catéchisme.
Et à la messe, alors que les parents n'y allaient pas.
Exactement. Voilà. Mon père n'était pas du tout content qu'on n'assiste pas à la messe. Il ne se proposait pas de nous accompagner, mais il tenait à ce qu'on y aille.
D'accord. Mais vos parents étaient en France depuis toujours.
Alors, mes parents sont français. Oui. C'est davantage au niveau de mes grands-parents.
Mais ils sont quand même... Enfin, vous avez des grands-parents qui n'étaient pas très... catholique, si j'ose dire, puisque vous dites que vous avez des grands-parents qui n'étaient pas mariés.
Alors, mes arrière-grands-parents qui venaient d'Espagne n'étaient pas mariés, effectivement. Il y avait eu une forme de rejet, justement, de l'institution catholique et de l'institution du mariage. C'était quand même au début des années 20, donc c'était plutôt novateur, on va dire. De la part de mon arrière-grand-mère, il y avait quand même un certain rejet de l'Église, de l'institution, des pratiques, puisque venant d'Espagne et étant d'une famille très pauvre, elle avait vu dans son enfance des inégalités. La légende, les histoires familiales ne sont jamais très précises, mais elle avait vu au moment du carême le curé de la paroisse peut-être faire bombance alors qu'eux-mêmes étaient tenus à la rigueur.
C'était quand même avant le Front populaire espagnol, c'était quand
avant la guerre civile.
Donc c'était
avant.
Vraiment des novateurs, vos...
Oui, oui, oui.
Vos arrière-grands-parents.
Oui, oui, nous, c'est une immigration de longue date déjà.
Oui. Et du côté italien, alors c'était pareil, hein, donc.
C'était pareil. Voilà, il fallait s'en tenir aux traditions, surtout ne pas déroger à ce qui relevait des habitudes culturelles. Voilà.
Oui.
Et puis du paraître. Hein, oui. Voilà, il faut se tenir à ce qui se fait.
Et alors, vous, comment vous avez évolué dans ce milieu? Vous avez rejeté? Vous avez...
Alors, rejeté, non, moi, je n'ai jamais été aussi excessive. Je dirais même, au contraire, à certains moments de ma vie, notamment quand j'étais jeune, plutôt attirée par la religion, pour toutes sortes de raisons.
Mm-hmm.
Parce que j'étais une enfant sensible et que les belles histoires me touchaient. Et...
Alors, quelles belles histoires, par exemple? Vous pouvez nous donner des...
Alors, quand je dis belles histoires, ce sont parfois des histoires un peu tragiques, en tout cas des destins. Mais c'est vrai que je me souviens être allée en visite en Lorraine sur le lieu de naissance de Jeanne d'Arc, où
oui.
Il y a évidemment sa maison. Mais ouais. Mes grands-parents habitaient alors... dans les Vosges.
Ah,
et j'étais toute petite, j'avais 7 ans, mais on a visité la maison de Jeanne d'Arc et on m'a expliqué un petit peu qui était Jeanne d'Arc et son destin exceptionnel et tragique, évidemment.
Bien sûr.
Qui a ému la petite fille que j'étais et qui s'est tout de suite, identifiée et avec énormément d'empathie pour cette jeune fille. Voilà. Et j'en ai pleuré des heures et des heures au grand désarroi de mes grands-parents, à leur grande gêne au restaurant. Je ne me remettais pas que Jeanne d'Arc ait pu être brûlée ainsi, aussi jeune, alors qu'elle était animée des meilleures intentions.
Ouais.
Voilà. Donc, j'avais un petit côté exalté, je crois, et les destins comme ça m'apportaient énormément.
Et vous m'avez parlé aussi de Saint-Vincent de Paul. Alors, Saint-Vincent de Paul, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui?
Alors, c'était... Je crois qu'on m'avait offert, justement, à l'occasion de cette sortie, des petits fascicules sur des grands personnages qui appartenaient à la religion. Et il y avait Sœur Alix Leclerc, qui est une... une jeune femme du XVIe siècle qui s'était engagée au service des pauvres. Il y avait Saint-Vincent de Paul, je crois que ça avait été à ce moment-là aussi dans cette mouvance-là. Et moi, ça me parlait beaucoup.
D'accord.
Voilà, le sacrifice me parlait beaucoup, la grandeur d'âme, et j'avais envie de ça aussi pour moi. Voilà.
Mais alors, ce qui m'a interloqué dans ce que vous m'avez fait passer, c'est effectivement Jeanne d'Arc, Saint-Vincent de Paul, c'est les saints en fait, c'est les grands personnages, c'est les saints. Mais la Bible?
Alors, la Bible, je crois qu'elle me restait, assez étrangère.
Oui.
Voilà, il fallait que ce soit incarné.
D'accord.
Incarné par... par des figures admirables. Et la Bible, moi, je n'ai commencé à la lire que très récemment.
Oui.
Mais ça n...
Vous n'avez pas fait de catéchisme du tout, catholique?
Alors, si. Je crois quelques années de catéchisme, forcément,
ouais.
Pour préparer ma communion. Mais très franchement...
Pas beaucoup de souvenirs.
Pas
parce qu'il y a des grandes histoires, notamment dans l'Ancien Testament. Justement, là, j'en parlais juste avant avec la pasteur, Florence Blondon, et on évoquait des personnages masculins de la Bible.
Moi, c'était le Nouveau Testament.
Oui.
Mes souvenirs se limitaient à Jésus et Marie, que je devais dessiner sur mon petit cahier de catéchisme. C'est à peu près, je pense que ce sont à peu près les seuls souvenirs de cet enseignement que j'ai pu garder. Je pense qu'il y avait peut-être quelques lacunes. Peut-être que c'était un peu léger à l'époque, dans cette paroisse, je ne sais pas.
Et donc le désir de devenir religieuse qui vous avait intéressée pendant un moment, ça n'a pas duré?
Alors, ça a perduré, c'est... jusqu'à mes 10 ans, je pense, 10-12 ans,
oui.
L'envie à mon tour, peut-être d'avoir un grand destin, je ne sais pas. Mais ça me paraissait très beau d'être religieuse.
D'accord.
Surtout dans un beau couvent avec un beau jardin.
Ah, voilà. D'accord. Donc là, effectivement, on est dans l'imaginaire complet.
Tout à
Et
fait.
Alors, les émissions religieuses du dimanche matin, c'est à partir de quel âge ?
Oh, je dirais l'adolescence.
Ouais.
L'adolescence, oui, parce que peut-être un besoin de comprendre, besoin de spiritualité.
Ouais.
Voilà, parce que je regardais aussi bien l'émission sur le judaïsme que l'islam ou bien l'émission protestante aussi.
Ouais. Et là, qu'est-ce que vous avez retenu, si vous avez retenu quelque chose quels étaient les personnages qui vous intéressaient le plus? Là, vous avez découvert, si vous parlez du judaïsme, l'Ancien Testament, enfin le Premier Testament, Moïse,
oui,
tout ça.
Oui, le côté historique me plaisait énormément. Par la suite, j'ai fait des études d'histoire, donc j'aimais comprendre les origines.
Voilà. Oui.
C'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et d'autre part aussi la perception d'une communauté.
D'accord.
Qui pouvait apparaître selon les émissions, puisque elles ont des axes, des thématiques parfois très différentes.
Et alors, je reviens sur l'expérience que vous avez eue donc du Nouveau Testament, la naissance de Jésus, la virginité de Marie. Est-ce que ça vous disait quelque chose, la virginité de Marie? Par exemple, le personnage de Marie, en sens où il était très, très asexué dans l'Église catholique, puisqu'il est réputé, enfin, elle est réputée rester vierge jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que ça vous parlait ou est-ce que ça vous a rebuté?
Alors, je pense qu'au départ, ça n'était pas une question que je me posais, mais par la suite, en grandissant, comme tout le monde, je me suis mis à remettre en question ces croyances, enfin, cette présentation. Et puis, j'ai découvert que, de toute façon, le culte de Marie, il avait été complètement construit a posteriori. Donc... tout ça me paraissait très faux et un peu dérangeant qu'on veuille me faire croire à cette image.
La résurrection de Jésus aussi, ou c'est plus le culte marial qui vous a dérangé?
La résurrection de Jésus, peut-être moins.
Ouais.
Peut-être moins, je m'en accommodais, je m'en suis accommodée plus longtemps, disons.
D'accord.
Voilà. Mais par la suite, je l'ai remis en question. Je l'ai remis en question aussi. Je me suis dit, mais tout ça n'a pas grand sens. Qu'est-ce qu'on peut croire là-dedans? Qu'est-ce qui est historique? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la foi prête à accepter une belle histoire où c'est un symbole. Voilà. Bon. Il y a autre chose derrière, mais je n'ai pas poursuivi pour savoir ce qu'il pouvait y avoir derrière.
D'accord. Et les études d'histoire, est-ce que ça a modifié vos perceptions de la religion ou, religion, j'aime pas beaucoup ce mot, mais de la spiritualité, disons. Est-ce que ça a modifié ou est-ce que c'était complètement de côté? Enfin, est-ce que ça avait rien à voir avec tout ça?
Alors, j'ai continué à m'intéresser à la religion, mais plutôt de l'Antiquité, la religion romaine. J'ai fait j'étais en classe préparatoire à Hippocagne-Écagne, et donc on faisait évidemment des lettres, de l'histoire, de la philosophie.
Ouais.
Ce qui fait que je n'ai fait qu'une seule année véritablement d'histoire à l'université.
D'accord.
Mais j'ai fait mon mémoire en histoire latine sur les femmes de la famille impériale et la religion, au 1er et 2e siècle. Je n'ai même plus bien en tête les limites historiques de mon mémoire, mais voilà, je me suis plongée en tout cas plutôt dans la religion romaine.
D'accord. Et alors, le protestantisme, alors, puisque là, on est quand même dans une émission protestante, et puis vous êtes bibliothécaire dans un institut protestant, quand est-ce que vous l'avez découvert? Quand est-ce que vous l'avez vraiment découvert? Parce que vous habitiez où
Alors, j'ai longtemps habité à Paris et en région parisienne. Nous sommes arrivés dans l'Aveyron il y a maintenant presque 10 ans. Nous y avons passé 6 ans.
D'accord. Dans l'Aveyron. À Paris, il y a un peu plus de protestants, mais c'est pas énorme.
À Paris, je ne les ai jamais vraiment. Je n'ai pas eu l'occasion de côtoyer des protestants à Paris. Par contre, c'est vrai que dans l'Aveyron, Millau, où j'habitais, était quand même une ville avec un passé protestant très important.
Ouais.
Et puis, il y avait ce clivage catholique-protestant qui a perduré pendant longtemps dans la ville de Millau, entre les riches propriétaires de tanneries, du gant aussi, et puis les ouvriers. Et il y avait aussi un temple à Millau. Il y a toujours d'ailleurs une pasteur aujourd'hui affectée au temple.
Ouais.
Et puis on est aux marges des Cévennes lorsqu'on est dans l'Aveyron.
Oui.
On n'est jamais très loin des Cévennes. Je crois que pendant ces années-là, on a découvert les Cévennes et on a commencé à explorer ce territoire qui était proche de chez nous.
Et au niveau de l'histoire ou de la culture, qu'est-ce qui vous a frappé en premier?
En premier, je crois que quand on est dans cette région, et notamment dans les Cévennes, c'est l'histoire des Camisards qui frappe immédiatement. Donc
Et là, Marie Durand a détrôné Jeanne d'Arc?
Peut-être bien.
Bon, d'accord.
Peut-être bien que Marie Durand est arrivée sur la scène. Et effectivement, j'aurais visité la tour de Constance à Aigues-Mortes à l'âge de 7 ans. J'aurais peut-être voulu être Marie Durand.
D'accord. L'avez visitée, la tour de Constance?
Depuis, oui, je l'ai visitée.
Vous n'aviez plus l'âge de vous identifier.
Voilà, j'étais devenue très sage.
Oui. Puis passer, je ne sais pas combien d'années, de dizaines d'années de sa vie en prison, ce n'est pas génial.
Voilà, c'est un destin, mais bon.
Ouais. Et vous parlez aussi de Lourmarin. Alors, Lourmarin, c'est la ville de Camus.
Oui,
si je me souviens bien.
Oui, il y est enterré.
Oui, et là, vous avez rencontré aussi des protestants à Lourmarin, parce qu'il y a une communauté là-bas.
Il y a une communauté, mais j'étais trop jeune à l'époque.
Ouais.
Moi, je me contentais de regarder le temple à l'autre bout du village. Puisque temple qui n'était pas souvent ouvert et dans lequel je n'ai jamais mis les pieds, mais l'histoire des protestants était présente aussi. L'histoire des Vaudois était particulièrement présente à Lourmarin et même dans le Vaucluse, dont je suis originaire du côté maternel.
Préciser ce que c'est que les Vaudois, parce que les Vaudois, ce ne sont pas les habitants du canton de Vaud en Suisse dont on parle. Alors, est-ce que vous pouvez préciser qui sont les Vaudois?
Les Vaudois, eh bien, c'est une secte qui vient de Pierre Valdeau, qui, au XIVe siècle, marchand lyonnais, a tout abandonné pour prêcher la pauvreté et a donc eu des adeptes à cette époque qui ont très vite été chassés. Mais il y a des communautés qui se sont constituées, notamment dans les Alpes et puis dans la région lyonnaise et au plus bas même dans le Vaucluse, qui ont régulièrement été pourchassés. Voilà.
Et qui se sont ralliés à la réforme.
C'est ça.
Sous l'influence de Zwingli, Guillaume Farel, et qui, il n'y a plus tellement de traces des Vaudois actuellement.
Alors dans le Piémont, il reste les vallées vaudoises. Les personnes d'origine vaudoise se retrouvent par leur nom de famille.
Ah oui.
Voilà.
D'accord, ben ça m'intéresse parce que j'aimerais bien faire quelque chose sur les Vaudois, mais la difficulté, c'est comme ces mouvements se sont intégrés à la réforme assez vite,
Oui.
ils ont en quelque sorte perdu leur spécificité. Alors peut-être dans les familles,
Dans
alors
les
ça.
familles, oui, on reçoit un bulletin historique d'une association pour
Ah!
l'histoire vaudoise qui est située à Mérindol, justement, tout proche de Lourmarin.
Ah ben ça
Oui.
m'intéresse, il faudra que je retienne. Et puis donc le village de Chambon-sur-Lignon, dans les Cévennes, enfin aux marges des Cévennes, hein, c'est en Haute-Loire,
Oui.
donc pendant la guerre, le refuge des enfants juifs, donc dans le collège Cévenol, du pasteur André Trocmé.
C'est ça, mais depuis que je suis à l'IPT, j'ai entamé une sorte de pèlerinage, en fait, pour découvrir les lieux emblématiques du protestantisme,
Ah.
qui là sont beaucoup plus proches de nous que l'histoire des Vaudois. Et donc l'été dernier, eh bien, j'en ai profité, voilà, pour aller au Chambon-sur-Lignon, au Mazet-Saint-Voix, pour voilà, découvrir cette région qui est quand même très riche.
Où ça vous êtes, Chambon-sur-Lignon, et
Et
puis
au Mazet-Saint-Voix,
c'est quoi ça?
c'est un village qui est à côté du Chambon
Ah bon. Et
également.
qu'est-ce qu'il y avait dans ce village alors?
D'abord, un très très beau temple,
Ah bon.
un très bel environnement aussi, une communauté protestante qui perdure. Et puis,
J'ai honte parce que je connais pas, mais je vais prendre des
alors.
références, c'est
Moi, j'y
tout.
ai été sensibilisée parce qu'un historien local, que je me permets de nommer Christian Maïboui, me fait parvenir régulièrement ses ouvrages.
Ouais.
Et donc, lui habite dans
D'accord.
ce coin.
D'accord.
Et il a particulièrement étudié l'histoire de la région.
Et un autre lieu emblématique des protestants, c'est évidemment le musée du désert, je suppose.
Et oui, et j'avais commencé par là, évidemment, en découvrant les Cévennes, donc
Et
à
alors,
Mialet, le musée du désert.
oui, vous avez assisté à l'Assemblée du désert?
Oui, la dernière. La
Ouais.
dernière. Ça fait longtemps que j'avais. Très longtemps que j'avais envie d'y aller. Je l'avais déjà vu auparavant, bah, dans l'émission protestante du
Ouais.
dimanche matin. J'avais vu un culte,
Ouais.
une assemblée du désert, il y a déjà plusieurs années. Et je m'étais dit que j'aurais très envie d'y assister. Donc ça a été le cas l'été, enfin,
Oui, en septembre,
septembre
l'Assemblée
dernier.
du désert, c'est
Voilà,
toujours le
le
premier
premier
dimanche de
dimanche de
septembre,
septembre.
au Mas Soubéran, à Mialet, donc
Voilà.
près d'Anduze, là-haut,
Oui,
en
et
dessous de Saint-Jean-du-Gard.
l'IPT, il y avait un stand, puisqu'il y a aussi quelques
Oui,
stands
bien sûr.
de différentes associations. L'IPT, il y avait un stand et je m'étais proposée pour aider à tenir le stand. Et ça m'a permis de faire de belles rencontres, d'assister au culte, de rencontrer des protestants un peu de tous horizons, finalement.
Ouais.
Et on a eu des discussions très intéressantes.
Ok, ben nous, on va voir un peu la teneur des discussions, ce que vous avez découvert, mais d'abord, on va faire une pause musicale.
Compagnons des mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du canif. C'est une musique qui plaît.
Il aurait dû nous écouter.
Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du phoque. et du saumon fumé au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours, les mauvais jours, compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. Quand on joue du chien à poil dur, il faut ménager son archet. Alors je m'en vais, et j'en ne vienne pas au conseil, pour entendre hurler à la mort. Et cette chanson de la Fourrière nous a causé le plus grand tort. Compagnons des mauvais jours, que vous soyez une bonne nuit. Dans mes rêves, moi je prends ma casquette, puis deux ou trois cigarettes dans le paquet, et je m'en vais, je m'en vais. Compagnons des mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard, quand vous serez réveillés. Pensez à celui qui joue du phoque et du saumon fumé.
On se retrouve avec Sandrine, bibliothécaire de l'IPT à Montpellier, qui nous parle de sa découverte du protestantisme et notamment des grands moments, on pourrait presque dire des grands messes, si ce n'était pas un peu anachronique, du Musée du Désert et de l'Assemblée du Désert. Alors, l'Assemblée du Désert, c'est tous ces pasteurs habillés en robe. Bon, ça fait très, très solennel quand même. Très,
très cérémonieux, mais le décor naturel fait qu'il y a une proximité entre les gens, un
accord.
Oui, parce
que je précise à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas l'Assemblée du Désert, c'est sous les châtaigniers. Donc, en plein air. Donc.
Voilà, il y a une simplicité, en fait, dans ce moment-là. Et c'est un grand moment de partage. Et on entend les gens se retrouver, avoir le plaisir de se retrouver année après année. Alors, il faut reconnaître que ce sont beaucoup de têtes blanches hein, qui sont présentes. Même si, voilà, il y a quelques jeunes représentés par les scouts. Mais c'est vrai que c'est quand même une population un peu âgée qui vient à l'Assemblée du Désert. Pour beaucoup de familles, je pense que ça représente un symbole fort de se réunir à cette occasion, d'assister à un culte tous ensemble. C'était vraiment un très beau moment pour moi qui ne suis pas protestante et qui ne suis pas croyante. C'était quand même un moment de partage, de communion qui était fort.
Et est-ce qu'on ne se sent pas étrangère, justement, puisque vous dites vous-même que vous n'êtes pas protestante, donc est-ce que, bon, c'est pas étiqueté protestant ou pas protestant, bon, sauf les pasteurs qui ont la robe, mais oui. Les autres dans l'assemblée, on le voit pas.
Alors, on suppose qu'effectivement, toute personne qui se trouve présente à ce moment-là est protestante. Alors, évidemment, donc, déjà, moi, je le suis un peu en étant personnel de l'Institut protestant de théologie. J'ai cette étiquette protestante qui vient facilement se coller sur le front.
Ouais.
Je dois sans arrêt démentir ou en tout cas donner des explications sur le fait que non,
oui.
je travaille dans un institut protestant, mais je ne suis pas protestante et ça n'est pas, comme je le disais au début de l'émission, une condition sine qua non pour y travailler. Moi, je suis avant tout bibliothécaire et l'on attend de moi des compétences de bibliothécaire. Mais à l'Assemblée du Désert, en fait, il s'est passé un moment où on a compris qu'en fait, on était considérés comme des protestants, mon mari et moi. Mon mari m'avait accompagnée. Et on n'a pas eu on n'a pas eu envie de démentir.
Non, ben y a pas...
Non pas parce qu'on avait envie de tromper nos interlocuteurs, mais parce que les discussions qu'on avait avec eux, on était en accord. Il y avait une sorte de compréhension mutuelle qui faisait qu'on n'avait pas besoin de justifier du fait qu'on était ou pas protestant.
Bah, je pense que de toute façon, moi, ça ne me choque pas du tout dans la définition du protestant que j'ai et que je partage avec beaucoup de gens, qui est quelqu'un qui se reconnaît, pas forcément croyant d'ailleurs, mais qui se reconnaît dans les valeurs du protestantisme. Bon, c'est-à-dire l'écriture, la grâce en premier, la grâce de Dieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais cette idée que d'avoir un sens, un sens à sa vie. Et puis voilà, le reste, je pense que dans le protestantisme, on n'a jamais demandé un certificat de baptême. On vous en a demandé, non?
Non, on ne m'en a pas demandé. On ne m'en a pas demandé. On a perçu, nous, en tout cas, une forme d'engagement aussi. D'engagement oui. Sur oui. Plusieurs plans, en tout cas, avec les personnes avec qui on discutait. Et des valeurs aussi. Oui. Des valeurs qui nous plaisaient, voilà. Et finalement, auxquelles on adhérait aussi.
Oui, oui. Donc, mais moi, je connais des gens qui sont protestants, qui n'ont jamais fait une démarche pour être protestante. Alors, moi, je suis aussi d'origine catholique, et je suis devenue protestante, donc à l'âge de, je devais avoir 24 ans, 25 ans, à la suite de mes études d'histoire, et j'étais voir un pasteur, et il a fait une petite cérémonie lors d'un culte, voilà, accueil, voilà, de trois
dans
trucs,
la communauté.
Quoi. Ouais, dans la communauté, mais c'est tout. Mais il y a des personnes qui sont venues dans un temple, et puis sont restées dans le temple, et puis voilà, sont protestantes, il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de choses comme ça.
De passeport pour...
Non,
oui,
non.
Oui, je comprends
non,
bien.
Non, non. Donc, c'est pas étonnant que. C'est pas le problème des gens, quoi, d'étiqueter, de mettre des étiquettes. Les gens qui sont là, bah, si on peut discuter avec, c'est super, quoi. Et c'est ça que vous avez ressenti, finalement.
Oui, 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 c'est ça. C'est. Ouais. Le fait qu'on n'avait pas besoin de se justifier. Voilà. On n'avait pas besoin de se justifier, mais. Finalement, on entre dans ce monde protestant. Notamment celui de l'EPUDF, enfin, très facilement.
Oui.
Très facilement, il y a une ouverture d'esprit. On se sent toujours accueilli.
Donc, oui, oui. Et alors, quels sont les... Vous avez découvert des discussions, enfin, vous avez assisté à des discussions, vous avez assisté à des...
Alors, les discussions, elles étaient plus interpersonnelles,
oui, hein,
que les conférences.
Oui.
Voilà, c'était sur que va devenir le protestantisme,
ouais,
en regardant les participants, quel est l'avenir du protestantisme, hein, qui c'était en tout cas l'inquiétude d'une des personnes avec qui on avait beaucoup échangé.
Oui,
nous ne sommes plus très nombreux. Oh là là, alors nous acquiesçons évidemment. Oui, effectivement, nous avons l'air de ne pas être très nombreux cette année. Il y a beaucoup moins de monde. Il faisait ses calculs. L'an dernier, il y avait beaucoup plus de monde. Les années passées aussi. Nombre diminue.
Je pense que le protestantisme est toujours sur la limite depuis le XVIe siècle, hein, depuis la réforme. Le protestantisme français, en tout cas, est toujours, comment dirais-je, en perte de vitesse. Risque toujours de s'étioler, puis finalement il est toujours là. Donc, mais bon, ça c'est une vue d'historienne, c'est-à-dire que,
oui,
bon, au départ il y a eu quand même 30% de protestants en France au XVIe siècle, et puis bon, ça a chuté depuis longtemps, c'est de 2 à 4% suivant qu'on compte les sympathisants, enfin, c'est pas facile de compter les protestants, justement, comme on l'a dit. Donc oui, il y a toujours, mais effectivement, il y a une évolution sociologique.
Je crois qu'on ferait le même constat en allant à la messe catholique,
oui,
un dimanche matin dans certaines églises.
Oui, mais c'est pas ça qui rassure forcément. voilà. Mais ce qu'il y a, c'est les mutations. Alors là, justement, à la Fédération protestante de France, qui est un organisme différent de l'EPUDF, donc qui chapeaute, entre guillemets, les églises protestantes. Enfin, chapeauter, c'est pas le bon terme. Mais disons qu'il est le représentant des églises protestantes au niveau de l'État, donc la Fédération protestante de France, dont l'EPUDF est membre avec de certaines églises évangéliques, il y a des discussions justement sur les mutations du protestantisme. Actuellement, mm-hmm, c'est le gros thème de la discussion. plutôt que d'avoir peur de ces évolutions. Mais effectivement, vous avez constaté, je ne sais pas si ça vous a étonné de voir, bon, les femmes pasteurs, ça fait un moment quand même, la bénédiction des couples de même sexe, on l'a fait aussitôt la loi, enfin ça a été fait aussitôt la loi. Il y a des pasteurs qui sont homosexuels, qui vivent en couple, oui. Il y en a à Montpellier d'ailleurs. Bon, est-ce que ça vous a étonné tout ça, ou est-ce que vous saviez déjà
Alors, je pense que je ne l'avais pas bien appréhendé, effectivement, et c'est cette, justement, on parlait d'ouverture, c'est cette ouverture-là, elle est pour moi très positive. Voilà. C'est le constat que j'ai vraiment fait en entrant et en rencontrant les personnes sur mon lieu de travail.
D'accord. Alors justement, votre lieu de travail, on va terminer là-dessus. Alors juste un petit, avant de parler vraiment du lieu de travail, mais ça rejoint, vous avez commencé à lire la Bible, vous m'avez dit. Mais c'est quand même compliqué de lire la Bible seule, parce que le Deutéronome, tout ça, c'est pas passionnant.
Alors, ça me paraissait un passage obligé, travaillant à l'Institut protestant de théologie, de commencer à lire la Bible, puisque je me disais, c'est le point de départ. Il faut commencer absolument par là. Et comme je suis très bonne élève, je n'ai sauté aucune ligne, aucun verset.
Mon
J'ai
Dieu.
Tout lu mot à mot. Et,
jusqu'où alors ?
Épuisée. Presque. J'ai lu 4 livres du Pentateuque, voilà, et épuisée par cet effort, je me suis arrêtée en me disant qu'il fallait peut-être que je trouve une version mieux écrite. J'ai trouvé ça très mal écrit, en tout cas dans la version que j'avais sous la main.
Oui.
Très fastidieux pour moi. Alors je crois qu'il faut que j'abandonne mon côté bon élève et peut-être que je prenne connaissance de façon plus globale.
Je pense. Je donnerais des. Si quelqu'un devait me dire je vais lire la Bible, je lui dirais non, surtout pas. Pas comme ça.
Alors j'étais rassurée d'apprendre que certains des étudiants n'avaient lu la Bible finalement que très tard. Moi je pensais que les étudiants en théologie baignaient dans la Bible.
Plus
si
de la moitié, plus de la moitié ne sont pas d'origine protestante.
Alors même ceux qui sont d'origine protestante n'ont pas forcément vraiment lu la Bible.
Je crois que mes
départ.
Enfants n'ont jamais, enfin celui qui est pasteur si, mais bon, j'en ai deux autres. Je pense pas qu'ils aient lu la Bible.
Donc je trouve ça plutôt rassurant moi. Dans les discussions que j'ai avec certains étudiants, ça me rassure et je me dis que je recommencerai ma découverte de la Bible, mais
avec
par d'autres
livres,
biais, d'autres livres.
Ou des Bibles pour enfants, moi. Pas bébé, mais des livres pour enfants, moi, je recommande. Mm-hmm. Mais bon. Je voulais qu'on parle plus de votre travail à l'IPT, mais on n'a pas le temps parce que c'est le moment de... Mais je voudrais dire que j'ai entendu des échos qui reconnaissent votre très grande... comment dirais-je, moi, votre très grande technicité, enfin, votre très grande compétence à ce poste, malgré que vous dites que vous n'êtes pas d'origine que vous n'êtes pas protestante, mais une capacité à connaître les livres, à référencer les choses.
Alors, je suis bibliothécaire dans l'âme, donc c'est vraiment un métier qui me passionne. Et le lieu en lui-même, la bibliothèque de l'IPT, c'est un lieu d'une très très grande richesse qui mérite d'être découvert parce qu'on a des collections...
Vous faites des portes ouvertes ?
Alors, on est toujours ouvert aux journées du patrimoine, par exemple.
D'accord,
donc, c'est vraiment un premier pas. C'est le troisième week-end de septembre,
général. On a le temps.
Ou le deuxième week-end de septembre, je ne sais plus exactement.
Okay.
Mais c'est vraiment l'occasion de découvrir le lieu en lui-même et de mettre un pied dans la bibliothèque.
Bon, alors d'accord, donc on retiendra. Et puis, si vous avez envie donc de vous inscrire, sachez que la bibliothèque de l'IPT donc, est en lien avec toutes les facs de Montpellier. Donc, on peut retirer aussi des livres, enfin, c'est le même réseau, voilà.
Oui, c'est ça. Une fois qu'on est inscrit, voilà. On peut emprunter dans le réseau des bibliothèques universitaires.
Eh ben, merci beaucoup, Sandrine, pour ce petit voyage dans la bibliothèque de l'IPT et puis dans vos souvenirs personnels. Merci de les avoir partagés. Et puis, je remercie nos auditeurs à qui je donne rendez-vous la semaine prochaine.
Merci, Yolande.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.